Somebody cousin king, somebody cousin king, somebody cousin. Ma come on a TV, ma come on a TV, ma come on a TV.
Comprends ce petit quand tu dis que la police c'est des chiens. Après avoir vu son frère violemment arrêté par les tiens pour quelques grammes de shit, en plus jamais la loi des drames. Style enfant violé ou bombe dans les métros ou dans les trams. Mais flic, quand tu nous agresses verbalement, sans coup boy, sans raison, tu nous cherches généralement. Sans motif à la revoir, peigne derrière les vannes que tu envoies. T'attends qu'une chose, c'est que l'aide nous perde son sang froid. Et flic, comprends que ton air supérieur à la bouche et la haine quand je vois un frère à moi qui s'est fait tabasser.
I'm dangerous, dangerous, dangerous.
Voyou, barbare, intégriste, casseur, terroriste, salopard, sauvageon. Est-ce que le compte est bon? Car tout porte à croire que les tiécards ont toute la France contre eux.
Dangerous, dangerous, dangerous.
Au départ à Benoît, c'est pas une nouveauté.
Dangerous.
Au tribunal, on s'en sort toujours mal. Ça se ressent dans les sentences, on n'a jamais eu de chance.
Dangerous, dangerous, dangerous.
On est soudés, solides et solidaires.
Je sais ce qu'ils veulent m'offrir. Une mort lente et douce pour moi. Oui, c'est ce qu'ils veulent, mon frère.
Je veux pas rester ici.
Pour aller mieux,
mais c'est encore pire.
Si c'est là-dedans que je dois m'habituer, c'est là-dedans que j'ai envie de tuer.
Est-ce que je demande
ma liberté me soit restituée?
Besoin d'évasion, évasion, évasion, effort d'imagination. Ici tout est gris, les murs, les esprits, les rats la nuit. On veut s'échapper de la prison.
Libérer,
j'en évader,
ça c'est déjà fait, je sais que c'est possible.
Tout démonter, tout brûler.
Sortez les briquettes, les briquettes.
Aujourd'hui, nous avons besoin de renouveler ce qu'on appelle la lutte anticarcérale.
Salut.
Bonjour.
Salut.
Vous êtes bien sûr à l'écoute de Radio Kaléidoscope sur 97 FM. Et c'est l'émission Les Murs ont des oreilles, une émission anticarcérale contre tous les enfermements. Tous les troisièmes mercredis du mois, de 19h à 20h. Et c'est l'émission du 15 mai 2013.
Alors, pour cette émission, on va parler de plusieurs choses. Pour commencer, on va parler d'un truc pas très chouette, des derniers suicides qu'il y a eu pour ce mois de mai. On va ensuite parler des conditions de détention à Corba. Ensuite, on enchaînera sur le bracelet électronique et le nouveau marché que ça peut être pour la nouvelle entreprise qui a eu le contrat. Ensuite, on parlera des grèves de la faim et des luttes dans les centres de rétention en Europe. Ensuite, on fera quelques brèves d'évasion. On reparlera de l'histoire de l'abeille et on finira par quelques brèves et voilà.
Pendant cette émission, nous allons écouter des morceaux extraits d'une super compile qui s'appelle Viva la libertad, mueran las cárceles, une compile de flamenco et de salsa. Profitez-en bien.
Thank you.
Ouais, et alors, du coup, on va commencer dans le vif du sujet en parlant de choses pas très gaies, mais qui font malheureusement l'actualité en prison, c'est-à-dire on va parler des derniers suicides qu'il y a eu en détention. Il y en a eu 4 depuis le début du mois de mai. Donc le vendredi 3 mai, il y a eu Marc Armando à la prison des Baumettes. Il avait été interpellé à la mi-avril et il venait d'être extradé des Pays-Bas en vertu d'un mandat d'arrêt européen, sachant qu'il avait déjà passé 18 ans en taule un peu plus tôt. Dans la nuit du samedi 4 au dimanche 5 mai, il y a eu un détenu de la tôle de Mont-de-Marsan qui s'est également donné la mort. Le mardi 7 mai, un détenu de la maison d'arrêt de Coulaines et le jeudi 9 mai, une femme de la prison pour femmes de Rennes qui était placée en détention provisoire depuis moins de 2 mois. Donc voilà, on le dit, on le répète, la prison tue et visiblement ça ne s'arrête pas. Et à Corba également, il y a eu 2 suicides au mois de mars. Donc une femme qui était en détention provisoire qui s'est suicidée le 30 mars et Sofiane Mostefaoui le 11 mars. Et dans ce cas, au moins, la thèse du suicide est réfutée par la famille.
Oui, et du coup, autour de cette mort suspecte de Sofiane Mostefaoui, il y a un comité justice et vérité pour Sofiane qui s'est monté et qui a organisé samedi dernier devant la prison de Corba un rassemblement. Donc c'était le samedi 11 mai. L'appel à ce rassemblement, c'était d'abord pour rendre hommage aux personnes qui trouvent la mort en détention et pour que ces morts ne soient pas tues. Et au-delà de cette idée de recueillement, où du coup tous les proches de personnes mortes en prison étaient invités à participer, il y avait aussi l'idée de faire le point, de maintenir la pression sur l'administration pénitentiaire, parce que, encore une fois, dans cet exemple-là de Sofiane Mostefaoui, l'administration pénitentiaire fait énormément de rétention d'informations, puisque c'est une mort suspecte. La famille et les proches ont eu énormément de mal à pouvoir récupérer le corps. Enfin, voilà. Donc il y a toujours besoin de maintenir la pression sur l'administration pénitentiaire. Et l'idée de faire un rassemblement, c'était aussi de faire du lien entre les personnes qui se sentent touchés par ces thématiques et d'organiser la mobilisation donc contre ces morts en détention qu'on appelle suicides ou qui peuvent parfois être reconnues comme la conséquence directe de l'enfermement et des conditions d'enfermement. Donc ce rassemblement, à ce rassemblement, il y a eu une quarantaine de personnes qui étaient là qui ont pu donc un peu parler de ça et montrer autour. Enfin, il y avait des grandes photos de Sofiane, il y avait sa famille, ses proches qui ont pu sentir le soutien qu'il y avait autour et puis discuter un petit peu de ce qui se passe dans les luttes anticarcérales aussi.
Ouais, du coup, ce rassemblement, c'est aussi un peu symptomatique de ce qui peut se passer à Corba. Parce que Corba, c'est un peu l'exemple type de la nouvelle prison à visage humain. Alors, il y a les guillemets. Hein. Et c'est en fait aussi et surtout la prison qui tue le plus en France. Il y a eu 8 suicides en 2012, et ça, c'est sans compter les tentatives de suicide. Non, suicide effectif. Il y en a eu 26 depuis son ouverture en avril 2009. Il faut aussi savoir qu'en tôle, le taux de suicide est déjà 3 fois plus élevé qu'à l'extérieur. Donc cette tôle Corbas, elle a été vendue comme plus humaine car elle est plus moderne, mais les conditions de détention y sont atroces. Elle est plus neuve peut-être, mais elle est surtout plus aseptisée, plus surveillée, plus encadrée. Les interactions humaines sont réduites à leur minimum. C'est toujours la galère pour négocier le moindre aménagement. En fait, tout est calculé et encadré pour que les détenus n'aient aucune marge de manœuvre. Et ces conditions de détention, elles ont été maintes fois décrites et dénoncées par les détenus. Et du coup, là, pour donner un petit exemple, on va vous lire un extrait d'un témoignage de Christine qui a été au quartier d'isolement de Corba.
Ici, j'ai découvert une cellule encore plus flippante que le mitard. Voilà ce qui s'est passé. Avec le lieutenant, toute la semaine, ça s'était pas mal passé. Malgré le sureffectif constant, me surveillant, on ne fait pas semblant d'être potes, mais il fait ce à quoi il s'est engagé et a compris que son intérêt était le même que le mien, que j'obtienne des réponses à mes mots dans un délai correct. Il a été installé, institué sans que je lui demande la douche quotidienne. Ouh là là. Il a même institué sans que je lui demande la douche quotidienne. Deux promenades par jour et plusieurs appels téléphoniques par semaine. Bref, j'avais pris mon rythme. Mais l'équipe de ce week-end a voulu changer la donne. Dimanche, ça a été encore plus tendu. Ils m'ont mis à la promenade dès 8h du matin, alors qu'il faisait presque encore nuit. Puis ils m'ont refusé la douche, alors qu'ils me l'avaient proposé le matin. À midi, ils n'ont pas ouvert la grille pour me passer la gamelle. Alors le soir, quand j'ai vu qu'ils n'ouvriraient pas plus, je leur ai dit « Si, vous allez m'ouvrir ». Et j'ai enflammé une feuille de papier journal. Ils ont refermé la porte en laissant la gamelle dans le sas, hors accès. Puis il est venu, un lieutenant, pour calmer le jeu. Je lui ai expliqué que je refusais d'être servi comme un kleps au chenil et que je lui donnerais le briquet en échange du repas quand il aura ouvert la grille. Il m'a dit que je grillais mes chances d'avoir le parloir interne que je réclamais, alors que la direction avait émis un avis favorable. Je me doutais bien qu'il mentait, mais je ne voulais pas prendre le risque. Alors je lui ai donné le briquet. Il est parti aussitôt, sans ouvrir le sas, et sans même me donner la gamelle. 10 minutes après, ils étaient 6, avec casque et bouclier pour me menotter. Cassés en deux, ils m'ont mené à travers toute la maison d'arrêt. Je n'ai pas bien compris où ils allaient, mais on a repris le souterrain. Ils m'ont accroupi au fond d'une cellule pour me démenoter, après m'avoir pris lunettes et baskets. Je demandais où on était, et ils m'ont dit « aux arrivants ». Massy, la cellule, n'avait rien d'une cellule d'arrivants. Je sentais la patte de l'architecte pervers de la chambre de l'UHSA. Lit, table, tabouret, tout était en béton. La télé était protégée par un plexiglas, tout comme la fenêtre, impossible d'accès. Il n'y avait pas de drap, juste deux couvertures en tissu. Même la télécommande était incrustée dans le mur, et ne marchait pas. Une grande surface était prise par la douche et le chiotte. L'évier en alu comme au mitard, sauf qu'il n'y avait pas de robinet, juste un jet d'eau pour boire. Tout était super propre, lisse. J'ai vu un petit sac sur la table, il y avait une affichette. « Vous êtes en souffrance, il est nécessaire de vous aider. » Ce kit fait partie du protocole d'aide. Le pyjama est aéré pour un plus grand confort. En cas de détresse, faites appel au surveillant, votre premier interlocuteur. Et un pyjama bleu comme un HP. J'ai eu peur. J'ai pensé qu'il m'avait hospitalisé au SMPR. Que j'étais en HO, hospitalisation d'office, sans avoir vu de toubib. J'ai appelé, mais personne n'a répondu. Une demi-heure plus tard, comme j'avais bouché le judas avec la fichette, ils ont cogné à la porte, joué avec la lumière et appelé à l'interphone. J'ai décidé de ne pas répondre, comme eux. Ils ne voulaient pas rentrer, juste mater. À 9h, le lendemain, j'avais faim et envie de fumer. J'ai fureté dans la cellule pour faire quelque chose. On ne pouvait rien casser, pas appeler. La fenêtre donnait sur une cour intérieure, un toit en fait, où jamais un humain n'est allé. Tout est arrondi, lisse, aseptisé. C'était franchement flippant. Au plafond, il y avait une demi-sphère en alu poli pour faire miroir depuis le judas et me laisser aucun espace sans vue, même collé à la porte. C'était vraiment de l'incitation au suicide, par sa volonté affichée de le rendre impossible. La frustration, même pour moi, qui ne veut pas crever, était à son comble. Enfin, vers 11h, j'ai entendu une surveillante me dire que j'allais voir un médecin. J'ai pris une grande inspiration et accepté. Ils étaient au moins 12 dans le couloir. L'entretien était assez court quand elles ont compris que j'étais en colère et pas suicidaire. Ils m'ont dit le sigle de la cellule, que je ne m'en souviens plus. Il y avait un P comme protection, et elle est effectivement au quartier arrivant. Puis Christine a été ramenée à la maison d'arrêt pour femmes. J'imagine le pauvre gars, tout juste sorti de garde à vue et enfermé dans cette cellule d'incitation au suicide lors de sa première arrivée à la RAT. La façon la plus ignoble de lutter contre la surpopulation. Elles sont belles, les règles européennes.
Voilà, donc ça c'était un des témoignages de comment la soi-disant taux, la visage humain de Corba, selon les paroles de l'administration pénitentiaire, en fait c'est un truc qui est encore plus hardcore par justement sa déshumanité et son aseptisation complète. Et un autre exemple de ça, c'est celui d'Edgar, qui s'est retrouvé placé en isolement à Corba sous prétexte qu'il n'y avait plus de cellules individuelles pour lui. Du coup, l'AP elle-même admet que ce type de placement en isolement est assez fréquent en raison de la surpopulation. Donc il faut savoir qu'à Corba, il est censé y avoir 690 places et en fait, il y a 879 personnes qui sont incarcérées là-bas. Et du coup, ben, voilà, ça arrive que des personnes soient placées en isolement, même si cette mesure n'est pas justifiée par la personnalité du détenu. Il faut savoir qu'en théorie, donc, selon les textes juridiques en valeur, si on veut, dans les prisons, l'isolement, c'est censé être une mesure de protection ou de sécurité qui doit procéder de raisons sérieuses et d'éléments objectifs et concordants pour redouter des incidents graves de la part de la personne détenue ou dirigée contre elle. Donc là, en l'occurrence, ce n'était pas du tout le cas. C'était juste qu'il était censé être dans une cellule individuelle et qu'il n'y en avait pas. Et rappelons aussi qu'à Corba, l'isolement, c'est de la bouche même des détenus qui y sont passés, de la torture blanche. Les rapports humains ont pratiquement disparu dans un univers froid, en béton et complètement aseptisé, où l'on communique par interphone. Les cours se situant à l'étage, ils ne savent plus à quoi ressemble la Terre. Quant au ciel, ils l'aperçoivent difficilement à travers des barreaux et du métal déployé, y compris en cours de promenade. Il faut savoir que le bâtiment lui-même, le bâtiment d'isolement, est isolé du reste de l'atoll, du coup c'est un isolement double.
Et donc pour finir sur l'actualité de Corba, il faut savoir en fait que le tribunal administratif de Lyon l'a condamné début avril pour s'être livré à des fouilles intégrales systématiques sur un détenu à l'issue des parloirs familles. Ce détenu explique qu'il a été fouillé à nu au moins deux fois par semaine au mois de mars. Donc pour rappeler, la fouille à nu, c'est se foutre à poil, se baisser, tousser et se faire inspecter sous toutes les coutures devant plusieurs matons, quoi. Donc c'est juste super humiliant et ça du coup ce mec-là, il a subi ça systématiquement au parloir, quoi. Juridiquement, dans les textes, ces fouilles ont été limitées par la loi de 2009, justement pour éviter qu'elles soient systématiques et surtout pour se conformer aux normes européennes, parce qu'on sait que la France est régulièrement condamnée pour ses conditions de détention. Du coup, là, c'était un petit peu pour soulager le truc, quoi. Sauf que depuis quelques mois, y a plusieurs tôles qui ont été condamnées pour ce genre de truc, à Vézin-le-Coquet, dans l'Ille-et-Vilaine, ou la prison de Varennes-le-Grand, en Seine-et-Loire, à Nancy, etc. D'ailleurs, il y a une autre tôle, Saint-Quentin-Fallavier, en Isère, qui a été aussi condamnée pour la même chose le 11 avril dernier. Faut dire que là-bas, cette pratique, elle est des fouilles à nu, elle est systématique, c'est pour tous les détenus et à chaque parloir. Donc évidemment, ces fouilles-là, la paix les justifie toujours en avançant des raisons de sécurité, à tel point que Thierry Gidon, délégué régional du syndicat FO pénitentiaire, déclare « Nous continuerons les fouilles, c'est la seule façon de maintenir la sécurité ». Le juteux marché du bracelet électronique confié à Thalès, titre rue 89 il y a quelques jours. Thalès récupère un marché de 50 millions d'euros pour les 4 ans à venir. Donc j'ai d'abord faire un petit rappel de c'est quoi le bracelet électronique. Alors le terme officiel c'est PSE, placement sous surveillance électronique. Il a été introduit en France à partir de 97. En fait la personne qui porte le bracelet, sans possibilité de l'enlever, est restreint dans ses déplacements hors domicile. La plupart du temps c'est juste le temps d'aller bosser et c'est tout, quoi. Des fois, ça peut être même juste 4 heures dans la journée pour aller chercher du taf et c'est tout. Et du coup, s'il sort en dehors des horaires imposés, le bracelet sonne et la punition est généralement la prison. Donc ce bracelet, il est en plein essor ces dernières années. Il est vendu comme une alternative à la prison et permettant donc de pallier à la surpopulation carcérale. Sauf que la réalité est tout autre. En général, il ne sert pas à sortir les gens de tôle, mais plutôt, la plupart du temps, à mettre sous écrou des personnes qui autrement ne seraient pas allées en tôle. Du coup, plutôt qu'un contrôle judiciaire, un bracelet, plutôt qu'une conditionnelle, un bracelet. C'est toujours la même logique, enfermer, surveiller toujours plus. Il sert pourtant d'une carotte pour les détenus, car permet au moins de sortir des murs et de pouvoir vivre avec ses proches. Il est donc assez difficile de l'obtenir et souvent il faut se la jouer bon élève. Et malgré ça, pourtant, il s'agit bien d'un enfermement, mais d'un genre plus vicieux. En fait, personne ne t'empêche physiquement de te faire la belle, mais la menace de la tôle, si tu te laisses tenter, est omniprésente. Les barreaux se retrouvent dans ta tête, on finit par devenir son propre maton. C'est un peu le collier sans la laisse, quoi. Du coup, le bracelet en chiffres, c'est quoi? C'est 9497 placements sous surveillance électronique en aménagement de peine, 607 dans le cadre d'une surveillance électronique de fin de peine. Les personnes sous surveillance électronique représentent 17% de l'ensemble des condamnés sous écrou, et c'est en constante augmentation. 47 personnes sous surveillance mobile, libération conditionnelle, mesure de sûreté, et 209 personnes assignées à résidence sous surveillance électronique. Ça concerne plus de 10 000 détenus sur plus de 67 000. Et ça a été multiplié par 4 depuis 2007. En fait, ce bracelet, c'est le nouveau chouchou des SPIP et de la pénitentiaire. Et pour cause, une journée en prison, ça coûte entre 60 et 80 euros par détenu. Le bracelet électronique, seulement entre 12 et 14 euros. C'est toujours une histoire de thunes, la prison à la maison coûte moins cher. C'est surtout un nouveau marché et super juteux, une nouvelle façon de se faire de la thune sur le dos des prisonniers et prisonnières, parmi tant d'autres, qui attirent les grosses sociétés comme Thalès, avides d'argent facile et de rentabilité. Donc le contrat que Thalès a décroché, c'est 50 millions d'euros sur 4 ans. Thalès, c'est le géant français de l'aéronautique, de la défense et de la sécurité. Et il s'y connaît déjà plutôt bien en surveillance. Il a déjà obtenu en 2010 l'énorme chantier des écoutes judiciaires. Son chiffre d'affaires est de 14 millions d'euros en 2012. Donc c'est vraiment la grosse entreprise, quoi. Le développement du bracelet, de ce nouveau bracelet de Thalès devrait commencer au deuxième semestre de 2013. Les bracelets sont fabriqués à moindre coût en Pologne par une société qui s'appelle G4S, qui est une entreprise britannique de sécurité, filiale de Thalès. Donc personne n'en doute, le bracelet c'est la solution idéale. C'est moins cher pour l'État, c'est une alternative à la prison pour les personnes sous bracelet. Pourtant, les dysfonctionnements sont nombreux, des bracelets qui sonnent sans arrêt ou sans aucune raison. Et et aussi, un autre truc, c'est que en 2010, il a été comptabilisé 12 actes auto-agressifs concernant des personnes sous main de justice placées sous surveillance électronique, qui a été suivi d'une hospitalisation. Donc moi je trouve que c'est assez ça montre assez la perversité de la chose, quoi, où en fait au lieu de te rebeller contre le maton, ben en fait vu que en fait t'es à la fois prisonnier, c'est à la fois être prisonnier, être maton dans sa tête, quoi, ben tu t'automutiles, quoi, au lieu de te rebeller. Du coup je trouve ça assez atroce, quoi. Et du coup, pour donner un exemple en fait de c'est quoi la réalité d'une vie sous bracelet, il a juste début mai à Rodez, un homme de 30 ans qui portait le bracelet depuis février est accusé de l'avoir cassé. Et donc pour la paix, ça c'est des faits d'évasion. Et il passera en procès le 22 mai pour s'en justifier. Donc on imagine déjà que le juge manquera certainement pas de lui rappeler que le bracelet, ben c'est une fleur offerte par la justice, c'est une marque de confiance et qu'il l'a brisé. Donc en attendant, le tribunal se demande bien de qu'est-ce que faire avec ce prisonnier. L'avocat de la défense a plaidé pour un contrôle judiciaire strict, car il travaille et apporte quotidiennement un soutien à son frère malade avec qui il vit. Mais après quelques minutes de délibération, c'est la sentence facile attendue, la détention provisoire. Donc c'est voilà un peu l'exemple de cette machine punitive intraitable dans son fonctionnement le plus banal, quoi. C'est la carotte et le bâton.
es el vano de venir un día a verme, porque todos mis amigos, unos van y otros vienen, y yo sigo aquí metido, a Dios le pido la muerte, y yo sigo aquí metido, a Dios le pido la muerte. Libre, libre quiero ser. Igual que si fuera un niño, y salgo al patio llorando, igual que si fuera un niño. Libre, libre quiero ser, quiero ser, quiero ser libre. Libre, libre quiero ser.
Alors vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Les Murs ont des oreilles sur Radio Kaléidoscope 97 FM. Maintenant on va parler un petit peu des luttes qui se passent dans les centres de rétention ou ce qui correspond dans les pays européens. Parce que dernièrement il y a eu pas mal de grèves de la faim. Donc, il y a eu plusieurs mouvements qui ont été entamés par donc des détenus ou des retenus, puisque en fait les correspondances entre les différents types de tôles, ça s'appelle pas partout pareil, mais en gros c'était à chaque fois des personnes qui étaient en situation de demande d'asile, donc pas forcément dans le processus légal de demande d'asile, souvent des personnes donc jugées illégales sur le territoire. Par l'état dans lequel ils étaient. Donc ça a commencé aux Pays-Bas, dans un centre de détention à Schiphol, le 1er mai. Et donc là, il y a 20 personnes qui sont mises à faire la grève de la faim et aussi la grève de la soif pour réclamer leur libération et leur régularisation. Alors en face, ils ont reçu de la part du gouvernement des propositions d'augmenter les heures d'ouverture des cellules, d'augmenter les heures où ils peuvent se promener dans les étages de la prison. Donc ça correspondait pas du tout à leurs revendications puisqu'ils réclament juste la libération et leur régularisation. Donc ils ont refusé. Et là, ils sont pris une grosse répression. Donc, ça a brisé la grève. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en écho, donc ailleurs aux Pays-Bas, à Rotterdam, il y a eu 60 personnes qui se sont mises à faire la grève de la faim aussi, et dont 18 qui faisaient la grève de la soif aussi. Et pareil, eux, ils demandent leur libération. Donc, sur les nouvelles qu'on trouve à l'heure actuelle, il n'y a pas. Enfin, c'est assez difficile de trouver des nouvelles là-dessus. En tout cas, moi, je n'ai pas trouvé d'informations comme quoi ils avaient arrêté leur grève. Et puis, il y a un appel à solidarité qui a été traduit en anglais, pour le coup, mais pas encore en français, qui appelle à faire passer l'info, en fait, qu'il y a ces mouvements de révolte et de grève de la faim. Donc, vous pouvez trouver ces informations sur le site gettingthevoiceout.org. Donc, c'est tout attaché, c'est GETINGTHEVOICEOUT.org. Voilà, si vous voulez avoir plus d'informations ou cet appel à solidarité. Et donc, le lendemain, on change de pays, mais donc le 6 mai, à Bruges, en Belgique, donc c'est dans le centre fermé, il y a eu aussi des révoltes, puisque donc, les centres fermés en Belgique, c'est les endroits où sont détenus Les personnes donc, qui n'ont pas les papiers en règle pour rester sur le territoire et les jeunes délinquants. Voilà, donc c'est comme ça que c'est fait. Et donc, ce qui s'est passé dans ce centre fermé le lundi 6, c'est qu'il y a eu une dizaine de détenus qui sont montés sur le toit. Et il y, y en a trois qui ont réussi à s'évader. En solidarité, ou en tout cas à la suite de ça, il y a eu dès le mardi matin, donc dans le quartier des femmes, pratiquement toutes les femmes, enfin toutes celles qui le pouvaient physiquement en tout cas, qui ont entamé une grève de la faim pour protester elles aussi contre leurs conditions de détention. Elles sont donc une cinquantaine à faire cette grève. Leur revendication, c'était notamment de pouvoir parler à des journalistes pour faire connaître leurs conditions de rétention et protester contre ce qu'elles appellent des expulsions surprises. Parce que, en fait, ça sert beaucoup de menaces, c'est-à-dire que en fait ce qui se passe, c'est que à des moments, sans être prévenues, elles sont convoquées chez l'assistante sociale qui va leur annoncer que elles vont partir avec le vol du lendemain et qu'entre-temps elles sont mises au cachot, donc elles peuvent prévenir personne. Donc ni leurs codétenus leurs proches à l'extérieur, ni même leur avocat. Et ce qui fait qu'il y a des expulsions qui sont faites comme ça, alors que légalement, elles ne pourraient même pas avoir lieu, puisque c'est des personnes qui ont des recours devant des tribunaux, etc. Donc c'est même des expulsions illégales. C'est notamment une des choses qui leur met énormément la pression et qui a fait aussi que la grève a été brisée assez rapidement par la direction, puisque il y a eu des très fortes menaces d'expulsion immédiate. Donc elles ont arrêté la grève à l'heure actuelle. Et puis il y avait aussi en solidarité trois autres détenus qui faisaient une grève de la faim dans un centre fermé à Liège. Pour finir quand même sur une note positive par rapport à cette grève de la faim-là, en tout cas à Bruges, c'est qu'il y a eu le 8 mai, donc directement, donc le lendemain du début de la grève, ce qui est quand même assez rapide, une action de solidarité. Donc ça veut dire que l'info est sortie rapidement et que les personnes ont pu s'organiser rapidement à l'extérieur aussi pour amener leur soutien. Et donc il y a eu un rassemblement devant la prison avec une samba et des slogans pendant que les détenues étaient dans le préau, donc à l'extérieur, elles pouvaient les entendre. Donc elles ont vite été reconduites dans leur chambre par la paix. Mais en tout cas, le message a été entendu à l'intérieur et elles étaient bien contentes d'avoir ce message de solidarité de l'extérieur.
Ouais, on trouve ça important que du coup les infos elles puissent être relayées entre l'intérieur et l'extérieur, de quand il se passe des choses à l'intérieur et que les gens puissent arriver à s'organiser à l'extérieur et vice versa, de voilà faire passer les infos pour qu'on sache qu'est-ce qui se passe à l'intérieur et pour que les gens à l'intérieur aient un peu du relais à l'extérieur. Et on termine cette rubrique avec une bonne nouvelle. On n'en a pas tout le temps, mais cette fois-ci, on en a une. Juste pour dire que donc, le centre de rétention administrative de Bordeaux, qui est situé sous le commissariat de la ville, il est parti en flammes le 7 mai dernier et pour le moment, il est fermé jusqu'à nouvel ordre. Un de moins, bon débarras. Et alors, puisqu'on est dans le registre des bonnes nouvelles, on va faire maintenant des brèves d'évasion. Alors, c'est pas que des bonnes nouvelles, parce que des fois, les évasions, ça réussit pas toujours. Mais bon, quand même, ça nous fait quand même toujours plaisir de voir qu'il y a des gens qui essayent et qui, des fois, arrivent de s'échapper des prisons. Et alors, on commence cette rubrique par parler de Christophe Kider. Donc, Christophe Kider, on en a beaucoup entendu parler ces derniers temps, puisqu'il passait en procès à Lyon, là, le mois dernier, pour justement une évasion. Qu'il avait commis en 2009 de la prison de Moulins. Donc il n'était pas tout seul, il y avait 5 personnes qui étaient inculpées. Du coup, lui et l'autre personne avec qui il s'est évadé et d'autres personnes qui étaient accusées d'être ses complices. Donc évidemment, l'administration pénitentiaire, ça lui plaît pas du tout que des gens s'évadent de ces prisons. Surtout que pendant que le procès se déroulait, il y a eu une évasion spectaculaire à Sécudin de Redouane Faïd. Du coup, ça a augmenté encore la pression sur ces questions-là. Du coup, Christophe Kider, qui lui, de toute façon, il est en détention depuis 1995, donc il a pas grand-chose à perdre puisque là, il a à nouveau été condamné à 15 ans de réclusion, ce qui fait qu'en fait, il est pas libérable avant 2052. Donc autant dire qu'il a pas grand-chose à perdre à essayer de s'évader. Et d'ailleurs, il a affirmé dans une interview à la presse qu'il va tenter de s'évader le plus vite possible. Il déclare « Je vais partir, c'est une évidence. » Je leur laisse encore quelques mois, je sais que je vais réussir et que peut-être je ne retournerai jamais en prison. Et il précise aussi qu'il veut choisir sa mort et il prédit qu'il va y avoir d'autres évasions dans les mois à venir, que ça va exploser et qu'il va y avoir des drames. Du coup, alors on espère pas qu'il y aura des drames, mais on espère qu'il y aura effectivement plein d'évasions et plein d'autres mouvements de lutte dans les prisons françaises. Et d'ailleurs, récemment, il y a eu plusieurs évasions et tentatives d'évasion. Donc il y a eu à Foix, la semaine dernière, un détenu de la prison de Foix qui a réussi à échapper à la vigilance des gardiens pendant la promenade et du coup qui a réussi à escalader un mur et à monter sur le toit, où il est resté plus d'une heure. Et alors finalement les flics sont arrivés et ils ont fini par le récupérer. Mais en tout cas c'était quand même une belle tentative et qu'on a envie d'encourager ce genre de tentative. À Cherbourg également, il y a un détenu qui s'est évadé 2 jours. Alors lui, il n'était pas... dans une prison officielle, il était dans un hôpital psychiatrique, bon, ce qui revient à peu près au même. Il a réussi à s'évader dans la nuit du 3 au 4 mai et malheureusement, il s'est fait rechoper dans la journée du 6. Donc, il faut savoir quand même, l'administration pénitentiaire, elle n'aime pas du tout quand les gens s'évadent. Et du coup, quand on se fait choper, on prend cher. Et lui, donc, il a été condamné à 4 mois de prison ferme pour cette évasion. Mais cette fois, une vraie bonne nouvelle, donc à Tarn. Dans le Tarn, à Lavore, il y a un mineur qui s'évade d'une prison. Alors là, encore, c'est pas une prison qui porte le nom de prison, c'est un EPM, mais bon, ça revient effectivement au même. Donc les EPM, c'est les prisons pour mineurs. Donc il y a un mineur qui était enfermé dans cet EPM de Lavore, qui a profité du fait qu'il était dans un chantier de débroussaillage dans une commune voisine pour s'évader. Il est activement recherché. Donc il y a plusieurs équipes mobilisées, un hélicoptère et tout ça. Mais du coup, il faut savoir que l'EPM de Lavore, c'est quand même un EPM qui fait beaucoup parler de lui pour ses conditions assez trash, qu'il y a déjà eu plusieurs tentatives d'évasion et plusieurs émeutes. Et notamment donc, en mai 2011, où il y avait eu une situation que les matons locaux avaient appelé quasi-rébellion, donc en fait une situation de forte mutinerie à l'intérieur, et qui du coup avait été relayée à l'extérieur, et notamment par des gens qui avaient... qui, en solidarité avec cette rébellion, s'était introduit dans la PJJ de la Bège, donc qui était la PJJ responsable de cette EPM, la PJJ étant la protection judiciaire de la jeunesse, donc c'est eux qui gèrent les EPM. Et donc il y avait un petit groupe de personnes qui, en solidarité avec les luttes à l'intérieur, s'était introduit dans cette PJJ et avait tagué et dégradé un peu le matériel et bien précisé au personnel sur place que en fait ce qu'ils font c'est de la merde et qu'ils n'étaient pas du tout d'accord avec cette manière de faire. Et du coup ces personnes-là, il y en a plusieurs qui ont fait plusieurs mois de contrôle judiciaire et qui sont pas encore passés en procès. Il y en a 4 qui ont été qui ont fait quelques mois de prison préventive. Et du coup là il y a un communiqué par rapport à cette affaire entre guillemets de Labège qui vient de sortir, qui a été écrit par les personnes concernées et des proches et du coup qu'on avait envie de relayer.
Le texte s'appelle « Pour en finir avec l'affaire de Labège ». Rappel de l'histoire. Cette banale action directe contre les institutions répressives, mince réponse à leur violence quotidienne, a déclenché cette enquête toujours en cours aujourd'hui. La justice n'aime pas que son rôle soit révélé et attaqué au grand jour, et s'attache à calmer les actes de solidarité entre opprimés. Nous affirmons notre solidarité avec ce type d'action directe, comme lorsque les ouvriers ouvrières saccagent une préfecture, des employés séquestrent leur patron, des habitants et habitantes des quartiers se défendent contre une agression policière, des étudiants et étudiantes bloquent leur fac, des antinucléaires sabotent des lignes THT, des femmes voilées privées de cartes Tisséo métro toulousain occupent une régie de transport, des mal logés réquisitionnent un bâtiment, des Roms résistent à l'expulsion de leur camp, des sans-papiers brûlent un centre de rétention, des paysans déversent du fumier sur les bétonneurs. Contre tout cela, c'est une pratique habituelle des forces de répression que de saisir d'un prétexte pour aller défoncer des portes, arrêter des personnes et les mettre, eux et elles, et leur entourage sur surveillance pour une durée indéterminée. L'État construit des cibles, des identités chocs, du jeune de banlieue à l'anarcho-autonome, en passant par le djihadiste, afin de transformer un acte relativement banal en prémisse d'un danger pour l'ensemble de la population. Si balancer du fumier était répréhensible en soi, ça puerait pour la FNSEA. Au final, dans la guerre de classe en cours, ce sont les mêmes qui morflent, les pauvres et les révoltés. Le signal est clair. Hors des clous de la résignation et de la contestation balisée, point de salut. Les attaques portées à ses ennemis intérieurs sont des avertissements donnés à tous et toutes les autres qui voudraient contester l'ordre établi. Tentative toujours amenée à se reproduire, puisque les conditions d'exploitation actuelles nous poussent encore et toujours à nous révolter ou pour le moins à contourner les règles. À propos de l'enquête et des contrôles judiciaires. Le dossier ne comporte que très peu d'éléments justifiant l'intervention en grande pompe du 15 novembre. Il s'appuie d'abord sur un rapport de police dénonçant les inculpés comme appartenant, guillemets, à la mouvance d'ultra-gauche toulousaine, dont un des thèmes forts défendus et dénoncés par ses militants est l'existence d'un établissement pénitentiaire pour mineurs à Lavaur. Outre l'intérêt porté par ces militants à cette cause, l'éventualité de leur participation à l'action, objet de la présente procédure, est corroborée par plusieurs éléments probants. Le tract laissé sur les lieux par les militants fait apparaître un style et une terminologie à rapprocher des textes les plus actuels de la pensée autonome. L'utilisation de produits ammoniaqués caractérise une précédente action destinée à perturber le déroulement d'une réunion d'information portant sur les nanotechnologies, autre thème récurrent pour la mouvance ultra-gauche. Fin des guillemets. Et hop, voilà des coupables, tout trouvé. Ensuite, il y a un pauvre sac à dos contenant des vieux papiers nominatifs, des écoutes et liens téléphoniques démontrant que certaines sont potes, amantes, voire même colocs. Et puis il y a 5 ADN non identifiés, retrouvés sur des fringues à 50 mètres de la PJJ. C'est d'ailleurs sous le sale prétexte d'attendre les résultats des comparaisons entre ces ADN et ceux prélevés pendant la gave, sur les fourchettes et autres gobelets, que le juge d'instruction, SUC, maintient 4 d'entre eux en détention provisoire pendant 2 à 3 mois. Un correspondrait selon leur labo. Et bien sûr, les livres, affiches, tracts, autocollants sur les frigos, trouvés pendant les perquises, sont utilisés pour fabriquer les profils anarcho-truc-truc. Bref, du lourd. Depuis février 2012, rien. Enfin, pas vraiment, puisque les inculpés sont toujours sous contrôle judiciaire, leur interdisant de se voir, d'habiter chez eux et chez elles, de sortir du territoire, et les obligeant à pointer régulièrement. Cette pression de basse intensité, qu'est la CJ, censée empêcher de s'agiter, les inculpés comme leur entourage la refusent. CJ, contrôle judiciaire. Les demandes répétées de main levée et de modification ont toujours été rejetées par les différentes cours d'appel et autres chambres d'instruction. Des décisions justifiées par une commission rogatoire internationale délivrée aux autorités italiennes pour retrouver 2 présumés coupables encore recherchés. Et des risques certains de renouvellement de l'infraction du fait de leur appartenance à la mouvance ultra-gauche toulousaine, encore elle. Cette instruction n'a que trop duré et sert de prétexte à une mise sous surveillance de toutes les personnes qui, de près ou de loin, seraient en contact avec les inculpés. De proche en proche, comme un parasite, la surveillance se répand. Dans une ville comme Toulouse, ce sera bientôt l'ensemble des personnes qui s'agitent qui seront fichées dans cette affaire. Alors, à partir d'un seau de merde jeté dans une administration et de tags, ce sont des centaines de personnes qui se retrouvent sous surveillance. Afin de contrer l'individualisation auquel il et elle sont confrontés dans cette histoire depuis le début, et aussi juste parce qu'il et elle en ont tout simplement marre, les inculpés ont décidé collectivement de mettre fin à leur contrôle judiciaire et de le faire savoir. Arrêt immédiat de l'instruction. Levée des poursuites. Solidarité avec tous les révoltés. Signé, les inculpés de l'Abège, leurs proches et leurs amis. PS. Les résultats du procès ADN du 14 mars sont tombés. Ce sera donc 300 € d'amende chacune pour les 5 personnes inculpées,
mais aussi pour le témoin assisté et la personne mise hors de cause grâce à un billet d'avion. Si vous voulez envoyer un soutien financier ou juste écrire, vous pouvez écrire à CAJ à Canal Sud, 40 rue Alfred Duméril, 31400 Toulouse, pour les chèques à l'ordre de CAJ. Et vous pouvez écrire aussi à l'adresse mail non à l'EPM @riseup.net, j'appelle NONALEPM @riseup.net.
Juste pour finir avec cette rubrique évasion, j'ai pas dit tout à l'heure, mais les trois personnes qui sont évadées de Bruges, eh ben, elles ont réussi à quitter le territoire et sont a priori bien loin maintenant et plus très rattrapables. Voilà, pour finir avec une note positive aussi.
Voilà, alors maintenant on voulait parler de Christiane Taubira, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé. Du coup la ministre de la Justice Christiane Taubira, elle a inauguré ce mardi 30 avril le nouveau centre de détention de Condé-sur-Sarthe, ça ne s'invente pas, à côté d'Alençon dans l'Orne. Donc c'est encore une fois une prison modèle, hein, n'est-ce pas ? Donc une prison ultra sécuritaire pour des détenus en longue peine. C'est une prison donc, qui est ultra sécurisée avec des murs d'enceinte hauts de 8 à 12 mètres. C'est là aussi une prison à visage humain, donc ils aiment bien les prisons à visage humain au Parti Socialiste, puisque ça ne recevra que un petit nombre de détenus, 245. Alors qu'il y a d'autres prisons où c'est beaucoup plus nombreux. Enfin bon, on sait très bien que de toute façon, vu le taux de surpopulation, que ce nombre-là va exploser assez vite. Et vu que c'est une prison à visage humain, il y aura un maton pour 17 détenus. C'est quand même exceptionnel et on est très contents pour eux. Évidemment, tout ça, c'est ironique. Christiane Taubira, elle a inauguré ce nouveau centre pénitentiaire le plus sécurisé de France, Pouet-Pouet. Tout le monde se réjouit. Il faut savoir que le député maire de Alençon, donc, qui est la commune... la plus proche, c'est l'ancien directeur de la maison d'arrêt de Fresnes. Du coup, lui-même, il est très content qu'une nouvelle prison...
C'est une grande famille, quoi.
C'est ça. Finalement, tout le monde est très copain dans cette histoire. Et ceux qui sont bien contents également, c'est la filiale de Bouygues qui ont construit ce nouveau centre pénitentiaire, puisqu'ils se sont mis quand même 60 millions d'euros dans la poche. Du coup, la prison, ça permet à certaines crapules de s'enrichir bien tranquillement.
Toujours une histoire de thunes.
Et là, on a une petite rubrique insolite. C'est une petite rubrique pour dans l'idée de « ils savent plus quoi inventer ». Donc, il y a deux infos dont on a plutôt décidé de rire. Alors, en Suisse, déjà, il manque deux personnels pénitentiaires. Alors, l'atole de Chandolon a prévu d'engager tout simplement des anciens matons à la retraite. Donc, faut croire qu'ils ont du mal à recruter et on ne va pas s'en plaindre.
La deuxième brève insolite, ça se passe au Venezuela, où les prisons sont marquées par une super forte surpopulation. Il y a 48 262 détenus pour une capacité d'accueil de 16 539 prisonniers. Ah ouais, quand même. Waouh. Avec l'insalubrité, le manque d'infrastructures, les violences, ça a coûté la vie à 591 détenus l'année dernière, ce qui est quand même énorme. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé ? La solution miracle plutôt que de vider les prisons ? Ouvrir une boîte de nuit. La prison San Antonio, au nord du pays, a désormais son propre nightclub pouvant accueillir 600 personnes. C'est vraiment du gros n'importe quoi.
Alors, sans transition, on s'approche de la fin de l'émission, on est en avance, dis donc. Puisqu'on est en avance, on aurait qu'à en profiter pour dire que là, on avait choisi plutôt de ne pas relayer l'info, mais que l'actualité aussi en prison en ce moment, c'est qu'il y a beaucoup de mouvements de matons dans plusieurs prisons de France qui, comme d'habitude, les matons, ils ne sont pas contents, ils réclament plus de moyens, plus de personnel, machin. Leur nouvelle marotte, là, depuis qu'ils n'ont plus le droit de faire des fouilles à nu systématiques à la sortie des parloirs, que vraiment, c'est pas facile pour eux, c'est ils demandent des scanners corporels, là. C'est des espèces de trucs à rayons X.
Comme dans les aéroports.
Voilà, du coup, un espèce d'instrument technologique qui ferait qu'effectivement, on n'aurait plus besoin d'être fouillé à corps, puisqu'en fait, la machine s'en occupe pour eux. Voilà, donc ça, c'est leur nouvelle marotte. Et puis, voilà, ils sont pas contents parce que, toujours, ils estiment que... ils sont pas assez en sécurité, tout ça, et du coup ils ont encore une fois plein de place dans les médias. Enfin, il faut quand même pas oublier que quand c'est les matons qui manifestent et qui bloquent les prisons, ben souvent c'est qui paye les frais, c'est les détenus et c'est les proches, puisque ça veut dire que souvent il y a pas de parloir, pas de visite, pas de transfert, pas d'activité, pas de promenade. Enfin, du coup, c'est quand même encore une fois les détenus qui payent les frais de la connerie des matons. Et voilà, et du coup c'est bon pour cette émission. On voulait aussi vous dire que donc là, le samedi 4 mai, sur cette antenne et sur une vingtaine de radios en France, en Belgique et en Suisse, a été diffusé le concert du Son contre la prison. Donc c'était un concert de rap qui avait lieu à Ursa Minor à Saint-Étienne et qui était diffusé en direct. Un concert contre la prison, et le but c'était que ça puisse être écouté à l'intérieur des tôles. Donc c'est passé sur Radio Kaleidoscope. Du coup, si vous êtes à Vars et que vous avez écouté ce concert, et ben, n'hésitez pas à nous faire des retours, à nous dire ce que vous en avez pensé, voilà, ça nous fera plaisir.
D'ailleurs, on peut peut-être redonner les contacts de l'émission.
Tout à fait, et du coup, donc pour nous faire des retours là-dessus ou pour nous faire toute autre remarque, critique, proposition ou info sur ce qui se passe à Vars et ailleurs. Donc les contacts de l'émission, c'est possible de nous contacter par courrier à l'adresse postale Les Murons des Oreilles à Radio Kaleidoscope, BP 422, Grenoble 38018, je répète. Les Murs ont des Oreilles, Radio Kaleidoscope, BP 422, Grenoble 38018. Et sinon, c'est possible de nous contacter par mail à l'adresse lesmurs@riseup.net, lesmurs, L-E-S-M-U-R-S, tout attaché, @riseup.net. Voilà. Ah, il y a aussi un blog où c'est possible de retrouver cette émission et toutes les émissions des Murs ont des Oreilles. L'adresse c'est les murs ont des oreilles tout attaché .noblogs.org, où du coup il y a toutes les émissions récentes qui sont mises en ligne, et du coup c'est possible de les réécouter et de les diffuser par ce biais là. Et pour notre part, on se retrouve le mercredi 19 juin toujours de 19h à 20h sur Radio Kaleidoscope. À bientôt, bon courage,
bonne soirée,
salut.
De una manera u otra, que nunca, nunca, nunca van a poder con nosotros, porque hace tiempo que nos hemos dado cuenta de que el camino de la podredumbre no es el camino que queremos, y que si tenemos esperanza es porque hace tiempo que cogemos de excusa el camino de la lucha. Ánimo, hermano, fuerza, rebeldía y mucho amor.